Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, c'est avec un très grand plaisir que je reçois une personnalité des lettres syriennes, Myriam Antaki. Vous êtes romancière, nous nous souvenons avec émotion des Caravanes du Soleil, des Versets du Pardon, de Souviens-toi Palmyre, où vous nous présentiez le personnage fascinant de la reine Zénobie. Votre parcours littéraire est lié à l'histoire de votre pays et de sa diversité culturelle et religieuse. Alors si je vous reçois en ce dimanche, dans Chrétien d'Orient, c'est pour que nous évoquions votre ville natale, Damas, l'une des plus anciennes cités du monde, une ville de chrétienté aussi, par le passage de Paul, scène qui ouvre votre dernier roman, La rue de l'Ange, que l'on peut trouver en librairie et qui est publié chez les éditions Éric Bonnet. Bonjour Myriam Antaki.
Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je viens de Syrie. Tout le monde sait que c'est un pays meurtri. Je dirais peut-être au début qu'un des plus grands amours de ma vie a été la Syrie, mon pays. Je suis née à Damas, qui est tout de même la ville des premiers chrétiens de Syrie. Quand on pense que en 34 déjà, Saul, qui était devenu Saint Paul, venait déjà persécuter des chrétiens. Donc je crois qu'on peut dire que nous sommes les premiers chrétiens du monde.
Damas est la plus ancienne ville du monde, une oasis de révélation et de sensualité. Ses rues, au parfum de jasmin, tracent la trajectoire méconnue de chrétiens qui accueillirent Saint Paul. Puis l'islam, le long de la rue droite, celle de l'Ange, celle de votre roman.
J'ai appelé la rue de l'Ange parce qu'on a trop parlé ces derniers temps du chemin de Damas, de la rue droite. Il y a eu plusieurs ouvrages dans ce sens. Or, j'ai eu un personnage imaginaire qui pourrait être un ange pour couvrir 20 siècles de l'histoire de ces chrétiens, puisque j'arrive jusqu'à aujourd'hui. Aussi, l'ange peut être pour créer une cohérence sur 20 siècles, une fille de joie qui a accueilli tous les conquérants et que peut-être certains appelaient l'ange. J'ai voulu lier le mystique et le charnel, ce qui est la véritable essence de Damas.
Dites-nous un petit peu plus sur ce personnage qui s'appelle Magdala, je crois. Une passante mythique qui revient régulièrement pour accueillir les envahisseurs.
Oui, c'est une passante mythique, c'est la fille de joie qui existe dans toutes les cultures, bien sûr, et qui voit arriver tous ces envahisseurs, se succèdent comme dans un millefeuille toutes les civilisations de Syrie. Il y en a peut-être une vingtaine en 20 siècles. Et c'était une façon de créer un personnage tout à fait, si vous voulez, surréaliste, puisque cette femme meurt et renaît indéfiniment sur 20 siècles. Elle représente la sensualité de Damas. Ses paroles sont celles des diversités des civilisations. Et je crois qu'elle est très attachante.
Est-ce que c'est une manière à droite de prendre justement le lecteur par la main et de l'amener avec vous? Oui. Dans les recoins perdus de cette ville de Damas.
D'une part, comme je disais tout à l'heure, c'est une ville mystique et charnelle, Damas. Et j'ai pensé, pour traverser 20 siècles, le seul moyen de briser l'aridité de ces successions de civilisations, de passants, des époques de bonheur pour les chrétiens et d'autres de malheur, c'est de trouver une femme qui serait celle de la fécondité, celle de la tolérance, celle de l'écoute, celle de la sensualité, et c'est Magdala.
Alors, je me suis un petit peu renseigné sur sur la genèse de ce livre, et je crois que vous l'avez commencé avant les événements de Syrie, avant ce que l'on appelle le printemps arabe. Oui. C'est quand même une étrange coïncidence.
Oui, j'ai quitté mon pays depuis 3 ans maintenant, mais je l'ai tellement gardé en moi. C'est comme si j'étais pas partie.
Et vous habitez à Beyrouth maintenant, je crois.
J'habite à Beyrouth. Moi, je suis née à Damas et puis j'ai vécu longtemps à Alep, qui est aussi une ville mythique, une ville chrétienne, où il y a 13 églises chrétiennes, 13 rites différents. D'ailleurs, ce sont aussi 13 autres rites qui sont à Damas. Nous avons gardé en Syrie toutes les anciennes églises d'Orient. Nous avons aussi, à Damas, je raconte dans mon livre, il y a un village où l'on parle encore l'araméen, qui est la langue du Christ. Il y a tellement de choses si vivantes en Syrie sur les chrétiens. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est une espérance. Il y a un subconscient collectif de vie en communauté. Et peut-être ça, malgré les violences qu'on voit aujourd'hui, quelque chose pourrait perdurer et cette cohabitation pourra retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité.
Alors nous allons revenir sur votre roman, sur ce livre qui nous réunit ce matin, La rue de l'ange, aux éditions Éric Bonnier. Comment, on vous sent très ému, Myriam Mantakis, ce matin, comment pouvez-vous porter avec vous cette émotion et rester sereine finalement? Parce que pour se concentrer sur un tel travail littéraire, il faut malgré tout prendre du recul dans cette actualité.
Oui, mais aussi l'écriture est une catharsis. Et avoir écrit tout cela, j'avais commencé ce livre avant de devoir quitter mon pays. Et le fait de l'avoir quitté m'a stimulée à terminer. Surtout qu'il y a eu des persécutions de chrétiens. Nous avons vu une image de l'islam à laquelle nous n'étions pas du tout habitués. On a eu le sentiment qu'on a créé un monstre qui est très loin de l'islam, puisque nous avons vécu 15 siècles avec l'islam et que ceci a été possible. Donc je suis dans une attente très profonde de bouleversement qui pourrait reporter vers le fait de vivre ensemble, d'avoir des choses à se dire, d'écouter l'autre. Et je crois que le meilleur moyen, c'est le respect de l'autre. Je ne crois pas en la liberté qui a un but unique, c'est de détruire, de déranger. Je trouve qu'elle est superflue. La liberté doit ouvrir des portes de la parole. Je n'aimerais pas, jamais, faire une caricature désagréable du prophète Mahomet, parce que ça ne servira qu'à irriter. Je n'aime pas qu'on humilie, je n'aime pas l'orgueil. Et c'est comme ça, je crois, que les chrétiens de Syrie ont pu vivre 15 siècles avec l'islam.
Et en tant que romancière, en tant qu'écrivain, est-ce que vous portez une voix peut-être singulière dans cette période difficile?
Je ne crois pas, je déteste le phénomène de mouton de Panurge. Il faut dire non. Si aujourd'hui l'islam se présente sous ce jour, c'est parce qu'il a été très humilié, malheureusement. Je sais qu'il y a des excès. Je crois que aujourd'hui, pour revivre en Syrie, on va tous demander pardon les uns aux autres.
Alors revenons à Damas, à cette ville chérie finalement que nous découvrons donc dans ce premier chapitre de votre roman, La rue de l'ange. Il s'agit d'un quartier chrétien déjà.
Oui.
Revenons un petit peu à Saint-Paul et à cette.
D'ailleurs, le quartier chrétien, c'est cette rue droite. Saint-Paul s'appelle Saul. Il arrive en 34 à Damas pour persécuter les chrétiens. Et alors, il reçoit cette lumière éblouissante. Il perd la vue. Ses amis le prennent à l'intérieur de la ville par cette rue droite, parce qu'elle est droite. Elle va de la porte de l'est à la porte de l'ouest. Elle est toute droite.
Une rue qui existe toujours avec
elle
des colonnades.
Tout droit. Elle existe toujours. Elle a été même restaurée dernièrement. Et il va chez un évêque qui lui pose les mains sur les paupières. Des écailles tombent. Il retrouve la vue, il devient le grand missionnaire. Donc c'est cette ville de Saint-Paul, il y a jusqu'à maintenant une église par laquelle Saint-Paul a fui dans un panier. C'est là que le pape Jean-Paul II est venu, sur les traces de Saint-Paul, célébrer une messe. D'ailleurs, ce qui a été vraiment très troublant, c'est que le pape a été même dans la mosquée des Omeyyades pour visiter le temple de Saint-Jean-Baptiste.
Voilà, vous parliez de religions différentes tout à l'heure. On peut parler d'une forme de, j'allais dire, de syncrétisme, mais c'est peut-être un peu exagéré, disons de retrouvailles entre les monothéismes autour de lieux symboliques dont est cette mosquée des Omeyyades.
Parce qu'il y a... Elle était le temple Hadad des Sémites, puis devenu le temple de Jupiter des Romains, puis l'église de Saint-Jean-Baptiste, et puis est devenue la mosquée des Omayyades. C'est comme ça l'histoire de la Syrie. Tout est possible. La terre est très féconde.
On se souvient de l'un de vos livres aussi, qui était l'histoire de l'Euphrate.
Oui, ça c'est la naissance du monde.
Et je pense à cette ville qui s'appelait Doura Europos, oui. Où on trouve une église, une synagogue, oui. Au premier siècle de notre ère. Oui.
La synagogue, je crois, est au musée de Philadelphie, dommage. Et aussi la Syrie, c'est Ugarite, c'est les premières consonnes du monde, le premier alphabet. C'est pour ça, il faut croire que le phénix renaît de ses cendres.
Et pour vous, la culture chrétienne que vous représentez d'une certaine manière, mais aussi avec beaucoup d'autres communautés qui se rattachent à ces rameaux différents du christianisme oriental, cette culture chrétienne est véritablement enracinée dans cette terre syrienne.
Absolument, absolument. Et je crois que, d'ailleurs dans ce livre, je me réfère au moment de grande persécution, mais tout le monde est resté, tout le monde a lutté. Je me réfère aussi à tous ces chrétiens qui ont contribué à l'édification de l'Empire musulman, parce que c'était des lettrés, parce que c'était des médecins, des astronomes, et ils ont collaboré, ils ont aidé. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand les Omayyades sont arrivés en Syrie, c'était des gens du désert et ils savaient qu'il y avait beaucoup à apprendre. Et c'est ce qui a fait leur richesse.
Les traducteurs aussi, beaucoup de traducteurs oui. Syriaques.
Tous ce sont des traducteurs syriaques. D'ailleurs, je me réfère souvent à ces moments de grande traduction où je dis c'était la langue syriaque était la langue orientale des lettrés. Bien sûr, il y avait le latin, il y avait le grec. Et c'était eux qui avaient fait tous ces travaux de traduction. Et en fin de compte, après, il y a eu les grandes bibliothèques en arabe. Tout ça a été traduit par les chrétiens de Damas.
Alors
de
Bagdad. On le voit très bien justement dans votre livre, cette évolution. Vous retracez une aventure religieuse sur plus de 20 siècles. Donc si nous avons commencé avec la rue droite, je pense aussi à une époque plus difficile qui sont les massacres de 1860. Ne l'oubliez pas, vous y consacrez un chapitre. Et je crois que cette période qui nous semble peut-être très ancienne, mais toujours est très ancrée dans la mentalité des chrétiens de Syrie.
Oui, absolument. Mais aussi dans ce livre où je raconte toutes les cruautés, les atrocités, je raconte aussi ce que certains musulmans ont fait pour sauver les chrétiens. Ça reste une espérance.
On connaît cette histoire, je ne sais pas si elle est très répandue d'ailleurs. Je crois que plusieurs dignitaires musulmans ont sauvé des chrétiens à Damas.
Absolument.
Je pense à Abdelkader aussi.
Alors Abdelkader, qui avait été à la tête de la rébellion en Algérie et qui avait fini ses jours à Damas, et il avait sa garde privée et il a pu tout de même sauver 5000 chrétiens. Il y avait dans un autre quartier qui s'appelle Midan, il y avait peut-être 3000 chrétiens et les musulmans du quartier ont empêché les malfaiteurs d'entrer dans le quartier. Ce sont les musulmans qui ont défendu les chrétiens. Il y a eu de belles histoires, mais il y a eu beaucoup de morts aussi et beaucoup d'atrocités.
Et qu'il ne faut pas oublier.
Ouais. Non, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Il y a eu même des personnes qui ont été béatifiées à la suite de cela. Mais c'est l'histoire des chrétiens. Il y a des martyrs, il y a des saints, il y a... Voilà. Il y a des traîtres aussi. Vous savez, j'ai raconté à 2-3 reprises comment certains traîtres ont montré la route que les fugitifs avaient pris. Mais il y a eu beaucoup de martyrs et de saints aussi.
Alors Myriam Antaki, on vous reçoit pour La Rue de l'Ange, donc qui est en librairie, publié par Éric Bonnier Édition, un livre qu'il faut véritablement prendre pour s'imprégner de ce rythme d'Orient. Si votre écriture est nous envoûte, vous parlez de parfum, je crois que votre
écriture... C'est une écriture très très orientale, je ne sais pas si elle est appréciée, mais je trouve qu'il faut être fidèle à son rêve, à sa façon d'être. Moi, j'aime les couleurs, les parfums, les adjectifs. Je trouve que je ne peux pas épurer ce que j'écris parce que ça sort d'un G. Et je respecte le premier G parce que c'est celui qui est le plus profond, le plus fondamental.
Là. Nous parlions de Damas, nous parlions d'Alep, qui est votre ville d'adoption, donc cette grande cité, ville aussi 2 fois millénaire, sinon beaucoup plus, du nord de la Syrie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres lieux en Syrie qui vous semblent particulièrement importants liés à l'histoire du christianisme? Vous évoquiez Maaloula tout à l'heure, je crois.
J'ai évoqué Maaloula, qui est encore une ville où l'on parle l'araméen, qui est la langue que parlait le Christ. Il y a une autre ville qui s'appelle Sednaya, qui est un lieu de culte. On dit qu'il y a la première icône faite par Saint Luc, celle de la Vierge. Et peut-être je n'aurai pas le temps de raconter l'histoire de Sednaya. Il y a beaucoup de lieux bouleversants en Syrie, à part la richesse culturelle, tous les sites grecs, romains. C'est vraiment toute l'histoire de la Méditerranée qui est en Syrie.
Et vous terminez votre roman sur notre époque, finalement.
Oui, je termine avec une femme écrivain, parce que j'ai toujours voulu porter les itinéraires des femmes. Elle est écrivain, elle est en même temps conseillère politique, conseillère culturelle, et qui voit Damas et qui espère que Damas va surmonter tout ce qui se passe maintenant. Voilà.
Est-ce que vous retrouvez dans votre exil, parce que vous êtes malgré tout en exil, vos compatriotes qui pour partager un petit peu cette nostalgie, est-ce qu'on peut déjà en parler?
Oui, la nostalgie surgit dès qu'on part, mais elle devient plus forte avec le temps. Bien sûr, se retrouver, c'est faire vivre un passé, parce qu'on parle du passé, mais je dis à tout le monde, essayons de bâtir l'avenir aussi.
Donc Myriam Antaki, vous évoquez justement cette petite ville de Sednaya et vous avez laissé supposer qu'il y a une histoire. Alors quelle est l'histoire?
Oui, c'est une histoire qui fait penser aux métamorphoses d'Ovide. On raconte que l'empereur Héraclius allait en Perse et tout d'un coup il s'éloigne du camp, il laisse ses armées parce qu'il est fasciné par une gazelle. Alors il court derrière la gazelle pour la chasser et soudain elle se retourne. Et c'est la Vierge. Et elle lui dit, tu vas me bâtir une église. C'est là qu'est le couvent de Sednaya. Et c'est là qu'on raconte qu'il y a l'église, donc cette église qui est un lieu pour les femmes stériles. Elles viennent, elles passent la nuit dans une hôtellerie pour espérer d'avoir un enfant. Et toute la dévotion est pour cette très vieille icône faite par Saint Luc, qui est celle de la Vierge Marie. Ça, c'est l'histoire de Sednaya. Il y a un côté folklorique très amusant, mais ce sont aussi de cette façon que les lieux vivent, parce que beaucoup de personnes y viennent, une grande dévotion, de l'encens, des icônes rutilantes d'or. C'est en même temps un village désolé et un lieu d'une grande intensité religieuse, dans du faste et dans du recueillement aussi.
Une ville qui est où? Qui est dans la proximité de Damas?
Oui, ça c'est dans tout à fait des alentours de Damas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle dans mon livre, puisque je parle de Damas et du Damas chrétien. Elle est toute proche de Maaloula. Maaloula, cette ville où l'on parle encore l'araméen.
Et je crois qu'il y a plusieurs monastères à Maaloula aussi, des monastères de femmes, saintes têtes.
Mais certains ont été détruits, je crois. C'est une région qui a souffert.
Qui a beaucoup souffert récemment. Oui. Est-ce que pour vous, Damas rayonne encore au niveau culturel dans le monde arabe? Comment est l'imaginaire de Damas dans le monde arabe?
C'est-à-dire, je crois qu'il faut retenir que tout de même, le dialecte parlé à Damas est parmi les plus proches de l'arabe littéraire. Ce qui fait, et il y a eu un moment donné, tous ceux qui voulaient apprendre l'arabe venaient à Damas, vivre dans ces vieux quartiers, probablement à la rue droite. Il y avait plein de maisons d'accueil et déjà apprendre la langue d'un pays, déjà vivre à l'intérieur, c'est offrir en partage. Et ça a été une période très intéressante les 10 dernières années de ce partage de la langue de Damas, de la langue arabe avec les gens qui venaient d'Occident, l'art de vivre en Syrie et tout ceci a été très important pour nous.
Alors vous mentionnez l'Occident, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous, en tant que romancière syrienne, donc d'Orient par essence, qu'est-ce que vous avez à nous apporter finalement? Vous venez beaucoup en Europe. Qu'est-ce qui nous manque pour vous comprendre?
Je crois que vous pourrez nous comprendre. C'est à nous de faire l'effort d'aller vers vous. Je crois que nous portons une civilisation très très lourde, mais tellement riche, qu'on pourrait tout de même essayer de nous diversifier pour aller vers l'autre. Et ça, c'est très important. Moi, je vais toujours du principe, je vais vers l'autre et il m'attendra. Mais si je ne vais pas vers lui, il ne viendra pas vers moi. Je trouve qu'il y a une dynamique dans l'échange. Et je n'ai pas de problème à communiquer avec l'Occident.
Vous parliez de lourdeur. C'est lourdeur, de le poids de l'histoire, peut-être ?
Oui, les poids de l'histoire. Vous savez, la Syrie a 10 000 ans d'âge. C'est énorme à porter. Mais aussi, c'est sa renaissance. Ça veut dire que tout le temps, elle renaît de ses cendres.
Et vous voulez dire aussi, peut-être, quand on a des événements dramatiques comme ce qui se passe actuellement, c'est pas simplement l'histoire récente qui en est la cause, peut-être. Ce sont des racines plus anciennes.
Je crois aujourd'hui, en ce qui se passe, c'est un montage vraiment inédit dans le genre. Parce que créer ce monstre de Daesh, et je crois que ça n'a rien à faire avec le passé. C'est une nouvelle image qui est très très douloureuse pour nous tous.
Et la littérature peut aider justement à décrypter ce genre de phénomène.
Oui, absolument. Écrire, c'est déjà dire, c'est déjà communiquer, c'est rêver, c'est aller vers l'autre. Écrire est vital.
Et vous voulez continuer à écrire pour porter cette voix ?
Oui, j'espère, si je le peux.
Vous avez des projets ?
À peine. Trop tôt pour en parler. Ce sera toujours la Syrie, parce que comme j'ai commencé par le dire, c'est un grand amour dans ma vie.
Et on le voit dans votre bibliographie, que l'on peut trouver donc au dos de votre roman, La rue de l'Ange, qui est en ce moment en librairie et publié par Éric Bonnier. Beaucoup de vos titres sont en Syrie, donc c'est véritablement...
La plupart, absolument.
Un sujet inépuisable.
Ah, c'est inépuisable, lui.
Et on voit aussi que la place de la femme est très importante.
J'ai toujours porté la femme parce que j'ai toujours refusé que la femme soit dans un rôle d'aliénation. Tout ce que j'ai écrit, toutes mes héroïnes sont des femmes et je leur laisse la parole.
Myriam Antaki, je vous remercie infiniment d'être venue jusqu'au micro de Chrétien d'Orient ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre livre, La rue de l'Ange, Myriam Antaki, Éric Bonnier, édition. Je remercie Claire Levasseur à la prise de son, Dany Journeau pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture dans l'onglet Chrétien d'Orient. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Merci.